Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Prions beaucoup pour que les âmes reviennent à Dieu et consolons-le de tant d'ingratitude en nous livrant à lui de plus en plus. C'est un début d'émission, un troisième entretien. C'est une parole de Sainte Maravillas de Jésus, sainte canonisée en 2003 sous le pontificat de Jean-Paul II et contemporaine, décédée en 1974, avec pour intervenant, et je vous en remercie, Éric de Rus, enseignant en philosophie, marié depuis près de 20 ans. Et nous cheminons, nous découvrons un peu ce personnage qui peut-être que l'on peut aussi appréhender,
oui.
Mais une figure qui s'est offerte, livrée,
oui,
donnée.
Une figure marquante, une figure spirituelle marquante,
voilà.
Du XXe siècle.
On voyage avec, oui, Sainte Maravillas, on revient du côté de l'Espagne,
oui,
période de guerre,
oui,
à Madrid.
Oui.
C'est cette journée d'évacuation ou de départ de Madrid pour Sainte Maravillas,
oui,
pour un voyage en France de quelques jours.
Oui.
Voilà, et on vous écoute.
Oui, puisque le 13 septembre 1937, il y a une consigne du gouvernement républicain d'évacuer Madrid et avec d'autres personnes, donc elle quitte l'Espagne. Et on sait que le 16 septembre 1937, elle passera par Lourdes. Elle sera accueillie avec quelques sœurs par la communauté des sœurs de l'Assomption à Lourdes. Donc, et puis elle revient en Espagne le 28 septembre, vous voyez. Et là, elle part pour le désert de Las Batuecas, un ancien désert de l'ordre. Avant le début de la guerre, elle avait récupéré ce lieu. Et elles y restèrent avec quelques sœurs une année. Ce désert, ce saint désert, donc, sera restitué au Carme, en 1950. Mais pour l'instant, c'est Maravillas qui le remet debout, qui l'occupe. Et en 39, donc, elle reprendra avec ses sœurs la vie cloîtrée sur la colline des Anges, hein, ce fameux Carmel. Voilà. Et puis, il faut dire que quand même, déjà dès 1932, elle est demandée en Inde, hein, un évêque de Kottayam en Inde demandera une fondation. Donc, c'est la fondatrice aussi, hein, les fruits de son union à Dieu. C'est la fondation de tant de colombiers de la Vierge, de tant de Carmels partout. Après la guerre, des renouveaux des vocations, hein, on sait très bien que beaucoup, beaucoup de vocations frappent aux portes des Carmels. Elle fondera en 1944 Mancera, près de Duruelo, le lieu primitif de la réforme du Carmel masculin, hein, inauguré par Jean de la Croix. Elle s'installe à Mancera en 44, à Duruelo ça sera 47. Donc vous voyez, bon, 50 on l'a vu, il y a le désert des Batuecas qui est rendu au Carme, aux États-Unis aussi, des fondations aux États-Unis. Et puis,
qu'est-ce que ça nous dit, ce côté de fondatrice, de Maravillas qui ne s'arrête pas?
Mais qui ne s'arrête pas et
dans
qui ne s'arrêtera pas.
Elle se donne.
Ah ben, elle se donne complètement et je pense à cette phrase que l'on trouve dans Le chemin de perfection de Thérèse d'Avila. Aimer, c'est la passion d'agir pour qu'une âme aime Dieu. Aimer, c'est la passion d'agir pour qu'une âme aime Dieu. C'est-à-dire que l'amour est toujours fécond. L'amour, s'abreuver à la source même de l'amour, c'est-à-dire à Dieu, porte du fruit, toujours. Alors Maravillas a été, on va le voir, vraiment, elle a traversé des nuits tout à fait vertigineuses, mais on juge en a pas ses fruits, et l'un des fruits, c'est les fondations, c'est ces foyers où l'amour est aimé. Hein, et qui console par des âmes généreuses, qui console le manque d'amour, hein, qui étreint le monde et qui génère tant de nuits. Donc oui, ça nous dit le débordement de son union à Dieu, le débordement de sa contemplation. C'est une femme active aussi, hein, mais l'activité de l'amour, c'est pas l'activisme.
Voilà, c'est une femme active,
oui,
qui construit, hein, une fondatrice,
oui,
infatigable.
Oui. Fondatrice infatigable et très soucieuse aussi. Il y a une période un peu délicate, hein, dans cette vie qui concerne justement certaines orientations adressées et proposées aux communautés contemplatives. Donc déjà en 1950, il y avait eu la promulgation par Pie XII d'une constitution sponsa Christi qui encourageait les monastères à se fédérer, envisager des noviciats communs, des assemblées, etc. C'est un moment quelque peu difficile et le Concile Vatican II invitera aussi à ces mises à jour. Et Maravillas a une orientation intérieure quelque peu différente et préfère et demande, et elle aura une approbation par Rome, demande à ce que les Carmels qu'elle a fondés ou ceux qui ont une autre sensibilité puissent ne pas faire partie de ces fédérations-là, mais puissent plutôt s'unir et partager, puisqu'elles partagent les mêmes caractéristiques, les mêmes constitutions, les mêmes usages, puissent s'entraider spirituellement, économiquement. Et une approbation sera donnée en 72 par Rome à l'association Sainte Thérèse, hein, dont se réclame en fait.
Donc tout dans l'obéissance.
Alors toujours, voilà, toujours dans l'obéissance. Alors c'est vrai que je ne veux pas trop entrer dans cette question parce qu'elle est délicate. Et puis en Espagne, elle a laissé parfois des traces douloureuses, pénibles entre les Carmels. Bon, le fait est c'est que toutes sont filles de Sainte Thérèse, mais que Maravillas a répondu à un appel intérieur à se tenir à ce qu'elle considérait au plus près du charisme thérésien dans la manière de le vivre. Ce qui,
et en résumé, la grande règle de vie thérésienne.
C'est quand même la grande règle, c'est la prière. Hein. L'humilité, la vie donnée, la vie cachée,
dans un grand
silence, une grande pauvreté. Hein, Maravillas insistait, Jésus était pauvre. La vie à Nazareth, hein, le modèle c'est quand même la vie cachée à Nazareth. Et Maravillas était d'une extrême charité à l'égard de toutes ses sœurs et à l'égard même de celles qui ne resteront pas parce qu'elles n'y sont pas appelées, ou à l'égard de toutes. Vraiment, c'est ce qui domine, c'est sa bonté, sa charité. Elle n'est pas du tout dans un esprit de jugement, de condamnation de qui que ce soit. Je pense qu'elle a été fidèle.
Elle n'est pas dans un esprit aussi de domination.
Non,
ni de domination. Dans la fonction aussi de mère prieure, donc toujours en responsabilité, toujours
oui.
Avec cette autorité.
Je pense qu'elle a obéi, elle a porté comme elle a pu les charges qui lui étaient confiées. Il n'y a aucun raidissement, il n'y a aucun durcissement même
elle
dans sa façon.
Crispée.
Non, il n'y a aucune crispation. Quand on lit ses écrits, on voit bien que sa façon radicale, il est vrai, de vivre le charisme jusque dans ce qui pourrait apparaître comme des détails matériels.
Quand vous pensez à radicalité, vous pensez à quoi
À travers, chez Maravillas, ça se traduit l'importance d'une clôture très marquée, d'une pauvreté très marquée, les vêtements aussi, les alpargates, enfin, ça peut sembler être des détails, mais pour elle, ce n'était pas que des détails, c'était l'expression d'une générosité radicale qui embrassait un idéal formulé par Thérèse d'Avila, et elle voulait le vivre, sachant que c'est une tradition créative, et qu'en se plongeant, elle ne pensait pas que l'idéal avait à être adapté. Elle pensait au contraire qu'il fallait se plonger radicalement dans cet idéal. En tout cas, c'est ce qu'elle a fait, ce à quoi elle a été appelée avec ses sœurs, mais sans juger qui que ce soit.
Et l'Église, en tout cas. Hein, ses sœurs ont reçu l'appel.
Mais ses sœurs ont reçu l'appel.
Les vocations étaient là.
Les vocations étaient là. Et puis surtout, je pense que vous l'avez souligné, tout s'est fait dans l'obéissance, avec cette approbation par Rome de l'association Sainte Thérèse. Donc, ce qu'il faut retenir, je pense que c'est cet esprit d'obéissance et ce désir d'un amour vécu dans toute la radicalité possible. Voilà. Après, je pense que voilà, il vaut mieux être réservé. C'est le secret du roi.
Merci beaucoup, et je termine avec cette parole, puisqu'elle est à la une, Sainte Maravillas de Jésus, cette semaine, dans ce temps si particulier de la Semaine Sainte. Elle disait, vous n'êtes pas seul, puisque vous possédez Dieu qui est tout votre.
Oui.
Ouais. À demain, Éric Dorus.
À demain, merci. Heure.